Vous écoutez On lit pour vous.
Pour 2026, sortir de la torpeur. Un texte d'Émilie Nicolas, paru dans Le Devoir. Le 29 novembre 2024, Justin Trudeau et son entourage dînaient avec Donald Trump à Mar-a-Lago. À pareille date, en 2024, le commentariat canadien tentait de déterminer si le président désigné des États-Unis blaguait ou non, lorsqu'il avait parlé de faire du Canada le 51e État américain. Avec sa démission fracassante, Chrystia Freeland aura contribué à sonner l'alarme sur la gravité de la menace économique et politique que représentait le retour de Trump à la présidence. En bout de piste, c'est ce qui aura teinté l'année politique en 2025, l'année où la conscience politique canadienne aura commencé à émerger, à tâtons, du déni. Du déni de l'asymétrie de notre relation avec Washington, du déni de l'éternité immuable de l'amitié entre nos deux capitales, du déni de l'impérialisme américain et de son emprise sur nos destins collectifs, du déni des limites de la souveraineté nationale d'un pays du G7 qui fait pourtant la taille d'un continent. Cette sortie du déni est loin d'être terminée. Mais les consciences se seront faites plus sensibles à la fragilité de nos institutions face au capital étranger et aux sautes d'humeur de Washington. Ce déni contraste avec une forme de conscience politique relativement banale dans les pays du Sud global. Une conscience héritée de l'expérience de la colonisation que nos destins collectifs sont en bonne partie téléguidés par des forces politiques et économiques externes, que ce soit des multinationales, des superpuissances étrangères, le FMI ou la Banque mondiale. On s'intéresse à la géopolitique non pas par intérêt de se cultiver ou de s'ouvrir sur ce qui se passe dans le monde, ailleurs, chez les autres, mais par besoin élémentaire de comprendre ce qui nous arrive à nous-mêmes. La distinction est majeure. C'est une manière de voir le monde qui commence à percoler chez une partie des observateurs politiques canadiens. On parle ces derniers jours de l'élection présidentielle au Chili qui a été remportée par le candidat d'extrême droite José Antonio Kast, héritier politique d'Augusto Pinochet. Pinochet avait lui-même été porté au pouvoir en 1973 au terme d'un coup d'État, notamment téléguidé par la CIA. Son prédécesseur, Salvador Allende, avait nationalisé les mines de cuivre du pays et avait fait adopter une constitution permettant d'exproprier les grandes entreprises étrangères pour collectiviser une plus grande part des ressources chiliennes. Du point de vue des intérêts économiques de Washington, c'était intolérable. S'en sont suivis 17 ans de dictature. Le Chili avait pourtant déclaré son indépendance en 1818, il est d'une évidence élémentaire, lorsqu'on connaît l'histoire du Chili ou plus largement celle de l'Amérique latine, que l'indépendance d'un pays ne fait ni sa souveraineté politique ni sa souveraineté économique. Dans les faits, les peuples ne sont jamais complètement libres de déterminer leur destin sous le capitalisme, ni dans le giron de l'Empire américain, qui n'est au fond qu'une appellation alternative du capitalisme mondialisé. Par ailleurs, Washington pilote à l'heure actuelle un blocus naval au Venezuela. Question de fragiliser et éventuellement renverser le régime de Nicolas Maduro. Pas par préoccupation pour les droits de la personne, mais pour retrouver son accès d'antan aux riches réserves de pétrole local, jadis si bien exploitées par les multinationales américaines. Ce que l'Empire veut, l'Empire prend. C'est réel, c'est contemporain. Ce n'est pas de la science-fiction. En novembre 2025, Paul Saint-Pierre Plamondon affirmait qu'un Québec indépendant devra aligner ses politiques économiques et militaires sur celles des États-Unis, malgré la guerre tarifaire. C'est le genre de déclaration, parmi bien d'autres, qui me fait percevoir nos débats sur le fédéralisme et le souverainisme enveloppés dans une candeur dangereuse. Une candeur à peu près inimaginable en Amérique latine ou dans la Caraïbe. Un peu comme si nous discutions de provinces ou de pays à l'intérieur d'une bulle de verre sur le point d'éclater. Je crains, référendum ou pas, que l'on se fasse collectivement mal avec les tessons lorsque le réel fera inévitablement éclater le verre. Quand je parle du réel, je parle de la manière dont notre classe politique peut tout à fait vendre, d'elle-même ou sous pression, une partie de notre souveraineté économique, nos services publics, notre filet social, nos régulations, notre environnement et la préservation du territoire au plus offrant, que l'on soit province ou pays. Tout indique que 2026 continuera à travailler nos consciences politiques. D'abord, parce qu'il faut se préparer à la possibilité, loin d'être farfelu, que les élections de mi-mandat prévues à l'automne 2026 aux États-Unis ne soient plus tout à fait des élections libres. Si c'est dans un tel décor que nos propres élections provinciales sont plantées, alors tout ce que les analystes disent sur les enjeux prioritaires, les forces et les faiblesses de chaque parti risque d'en être profondément chamboulé. Nous n'avons pas l'habitude, au Québec, de ne pas tenir la démocratie pour acquise. Dans un tel décor, on risque de comprendre avec plus de force tout ce qui a été dit cet automne sur les différents projets de loi mis en avant par le gouvernement caquiste, au premier chef son projet de constitution. La fragilisation de l'État de droit, le musellement du communautaire, des syndicats et de la société civile, les attaques à l'autonomie des chercheurs et des professionnels, les menaces à la liberté d'expression, le déni des droits autochtones composent un problème urgent, notamment parce qu'il rend le Québec plus facile à vendre. Je ne souhaite que 2026 soit l'année de la sortie de la torpeur, l'année où l'on défend bec et ongles tout ce qui nous permet de penser et agir collectivement sur nos propres destins avant que ça nous glisse entre les doigts. Plus on prend conscience rapidement que le risque est réel, moins ça risque d'arriver. C'était, pour 2026, sortir de la torpeur. Un texte d'Émilie Nicolas, paru dans Le Devoir.
Au travail, à plus de 80 ans pour payer les factures, un texte de Marie-Ève Fournier, paru dans la presse. Imaginez-vous à 84 ans, à un âge où l'on devrait normalement savourer le calme d'un après-midi ensoleillé ou la visite des petits-enfants. Vous êtes plutôt derrière le volant de votre voiture, les yeux rivés sur l'application Uber à la recherche de votre prochaine course, ou dans une quincaillerie à conseiller des clients. Et ce n'est pas pour le plaisir, mais pour payer les factures. Aux États-Unis, cette réalité touche des centaines de milliers de personnes, 550 000 plus exactement, soit 4,2% des gens de 80 ans et plus. Ce groupe, dont on ne parle presque jamais, est au cœur d'une série fascinante publiée par le magazine américain Business Insider. Plus de 100 octogénaires qui travaillent encore malgré la douleur, la fatigue et la maladie se sont confiés. Certains travaillent par passion, mais ils sont rares. Une grand-mère de 93 ans, qui marche courbée à cause d'une fracture au dos, souffre d'une plaie infectée à une jambe. Pourtant, elle cherche désespérément du boulot parce qu'elle manque d'argent pour se nourrir. « Bon sang, j'aurais dû faire des économies », soupire-t-elle. Ce qui m'a frappée, au-delà des témoignages crève-cœur, c'est l'impact du sujet sur celui qui l'a écrit. Noah Shadlower est un jeune journaliste au milieu de la vingtaine. Après avoir passé des centaines d'heures à écouter les regrets de plus de 100 aînés, il a modifié ses propres comportements financiers. Parce que beaucoup regrettent de ne pas avoir suffisamment épargné plus tôt, je consacre désormais une grande partie de mon salaire à l'épargne et à mon plan de retraite, écrit-il. Il a compris, en voyant la détresse des octogénaires, que la liberté financière à 75 ans ne se décide pas à 50 ans. elle se construit au premier chèque de paix. Le journaliste relate aussi que de nombreux aînés regrettent de ne pas avoir été plus ambitieux et de s'être contentés du premier emploi venu ou d'avoir trop peu développé leur réseau pour progresser. Le Québec n'est pas les États-Unis, mais ces leçons peuvent aussi servir les jeunes qui commencent leur carrière à Laval, Sherbrooke et Montréal. Notre filet social est plus robuste, nos soins de santé ne dépendent pas autant de notre situation financière, quoique, et nous avons la chance d'avoir le régime de rente du Québec en plus des prestations universelles d'Ottawa. Tous les aînés de la province ne roulent pas sur l'or pour autant. Particulièrement chez la génération silencieuse, 1928-1945, qui n'a pas beaucoup connu les régimes de retraite d'employeurs à prestations déterminées, PD, ceux qui garantissent une rente à vie. D'ailleurs, plus d'un aîné sur quatre, 27,6%, ne vivait que de ses rentes publiques en 2022. Rien d'autre. Pas de régime privé de retraite, pas de placement. Cela représentait 680 000 personnes, selon l'Observatoire québécois des inégalités. Ce taux, déjà élevé, risque malheureusement de grimper car la Cadillac des régimes de retraite est une espèce en voie d'extinction à l'extérieur de la fonction publique. La responsabilité de la retraite repose de plus en plus sur les travailleurs. En ce sens, notre avenir ressemble de plus en plus à la réalité américaine. Si on ne s'occupe pas de nous-mêmes, personne ne le fera à notre place. Voilà pourquoi les récits d'octogénaires au travail, par nécessité, sont si riches en enseignements. Richard Smith, 81 ans, occupe deux emplois. Il est gardien dans un camping et livreur pour DoorDash. Ses boulots l'occupent 7 jours sur 7. Son erreur? Des investissements risqués à un âge trop avancé. Résultat? Il traîne encore 350 000 $ de dette. Même s'il peine à marcher, David Hugo Barrett travaille comme professeur suppléant après une carrière dans la haute technologie. J'ai sous-estimé mes besoins car j'ai vécu bien plus longtemps que prévu, dit l'homme de 82 ans qui ne pensait jamais se rendre à 80. Il admet aussi que malgré ses études en mathématiques, son niveau de littératie financière n'était pas suffisant, si bien qu'il a déjà vendu tous ses placements à perte à un certain moment. D'autres ont recommencé à zéro après une faillite. Certaines femmes ont perdu leur mari pourvoyeur. D'ailleurs, aux États-Unis, les femmes de 65 ans et plus qui travaillent sont plus nombreuses que les hommes. Au Québec, c'est l'inverse. Quelques octogénaires n'ont tout simplement pas pensé à l'avenir. D'autres regrettent de ne pas avoir consulté un conseiller financier. Il faut donc travailler pour faire l'épicerie. Mais trouver du boulot n'est pas simple. Victimes d'âgisme ou de préjugés, des aînés sont contraints de fonder leur entreprise après avoir soufflé 80 bougies. Après une carrière dans le milieu de la santé, Sharon Albrecht, 84 ans, a préféré devenir travailleuse autonome. Elle s'est tournée vers Uber, car il lui manque 1 500 à 2 000 $ par mois pour couvrir ses besoins. Elle se décrit comme très impulsive et spontanée, ce qui lui a fait remplir ses cartes de crédit. Comme d'autres, elle possède un condo, mais elle doit tout de même conduire des gens quelques heures par jour à Washington. Curieusement, beaucoup d'aînés préfèrent travailler plutôt que de puiser dans la valeur nette de leur propriété, comme si cette option n'existait tout simplement pas. Selon la banque américaine Fannie Mae, seulement 15% des propriétaires âgés envisageraient de financer leur retraite avec une partie de leur maison. Le reportage du Business Insider peut sembler loin de la réalité canadienne et représenter principalement les paradoxes typiquement américains. Or, il nous rappelle une vérité qui n'a pas de frontières. Notre avenir financier n'est pas une surprise. Il se construit chaque jour à travers nos petites et grandes décisions. C'était « Au travail à plus de 80 ans pour payer les factures », un texte de Marie-Ève Fournier, paru dans la presse.
Cette grande arnaque qu'est notre auto, un texte de Léa Strelitzky paru dans Le Devoir. As-tu déjà remarqué que le cacadois, c'est effectivement couleur cacadois? Tu vas me dire que je vais faire le saut quand je vais croiser une orange, mais le nom de ce verre m'a toujours marqué. C'est peut-être parce que je l'ai appris enfant, quand on m'a déraciné de mon Québec natal pour m'envoyer côtoyer des petits Parisiens qui, eux, savaient très bien ce qu'était le verre cacadois. Tantôt, je marchais vers le métro Henri Bourassa, et figure-toi que le parc Hansik en était complètement jonché. Un Parisien aurait pu me faire remarquer « voilà bien du cacadois », ce à quoi j'aurais bien sûr répondu « non ». C'est de la marde d'outarde. Tu sais comment on est avec notre parlure. Je me dirigeais vers le métro pour me rendre à Longueuil. Traverser l'île d'une rive à l'autre, 15 bons kilomètres qui, en voiture, m'auraient pris plus d'une heure. C'était presque le même temps en métro, mais il faut surtout que tu compares la qualité des deux promenades. J'avais la veille dû aller au centre-ville à l'heure de pointe, dans le brouillard. C'était un tel bordel que je m'étais promis de ne plus jamais tomber dans le piège de l'auto. Cette arnaque qui vit en pleine santé dans notre tête, ce mensonge qui a été gravé dans notre inconscient collectif à coups de millions d'images de pubs de chars. Les grands espaces, les routes sinueuses à flanc de montagne, cette liberté extrême qu'on t'a martelé année après année depuis ton berceau de Nord-Américain, cette promesse que l'habitacle renferme ton monde à toi qui est spécial, à toi qui n'est pas comme les autres, cette berline, ce pick-up qui est usiné des centaines de milliers de fois par année, n'est que pour toi. Il renferme ton individualisme et personne ne peut te l'enlever. Ici, dans ton char, t'es chez vous et tu peux aller absolument où tu veux. Je m'en étoufferai de rire. Imaginez l'immense imposture. Ça prend désormais une heure pour faire quelques kilomètres. On y a tous cru. On est tous tombés dans le panneau. J'y crois aussi, dur comme fer, chaque fois que je me réserve une commune auto au lieu de prendre le métro. Moi aussi, je me convainc que ça va aller plus vite, que ce sera plus agréable, que je pourrai me rendre de porte à porte, m'épargner la marche. Imaginez si, en plus de devoir faire ma journée, je devais faire des pas. Hey, j'ai des robots à mon service, moi. J'ai un téléphone à qui je parle et je peux lui demander de faire partir une minuterie ou de mettre une chanson. Je suis très puissante. Vous ne voudriez pas que je fasse un effort tout de même. Voilà bien les bourgeois épris de confort que nous sommes et l'industrie automobile et les vendeurs de pétrole et les voyous de l'asphalte s'en félicitent bien. Je pense à eux chaque fois que je suis pogné dans les bouchons comme une épaisse. Comme nous avons vendu nos villes et nos villages au diable. Comme nous les avons laissés se faire la piastre en déshumanisant nos quartiers, en nous vendant la promesse d'un progrès qui n'était que de futures chaînes. Ah! On est bien pogné maintenant. À se vendre des pipelines, toute notre économie est dépendante du pétrole et on est là comme des dindons à faire la queue leu-leu dans notre char. Pas de danger que nos élus aient le courage de mettre le transport en commun en valeur, ou pire, de le prendre. Pas de danger qu'ils allument, qu'ils comprennent que la vraie liberté du citoyen ne vient sûrement pas d'être l'esclave de paiement d'auto et du prix de l'essence et de pneus qu'on doit charrier au garage deux fois par année comme des ânes qui font du crossfit. Où sont les comités d'urgence pour sortir la société de cette impasse grave dans laquelle on est embourbé? 4000 Québécois meurent chaque année des suites de la pollution de l'air et près de 400 personnes sur les routes. C'est une petite pandémie. Si le métro, de la violence duquel on parlait cette semaine, engendrait autant de morts, je vous garantis qu'il aurait été interdit depuis longtemps. Et l'industrie du statu quo salivrait, comme elle salive qu'on impute la congestion aux pistes cyclables. Comprenez-moi bien, j'ai une auto, pas le choix. En Amérique du Nord, t'en as autant besoin pour vivre que de poumons. Mais je sais que la vraie liberté vient du choix et de pouvoir voyager et se déplacer simplement et pour peu cher. C'est d'avoir un réseau de transport efficace, omniprésent et pour tous. Et surtout, la vraie liberté, c'est de ne pas céder à cette peur du monde. C'est de savoir côtoyer des gens qui viennent de partout, de toutes les strates de notre société, des riches, des pauvres, des jeunes, des vieux, et aussi des gens qui ont des problèmes de santé mentale. La vraie liberté humaine ne vient pas de notre renfermement dans un monde confortable d'individualisme, c'est un piège. T'as jamais vu la scène dans Pretty Woman où un richissime Richard Gere revient à la vie en marchant pieds nus dans du gazon? Allez, viens avec moi, petit bourgeois. On va marcher dans le parc Hansik, même si c'est plein de cacadois. C'était « Cette grande arnaque qu'est notre auto », un texte de Léa Strelitzky paru dans Le Devoir.
Une année d'avancée québécoise en santé. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 29 décembre 2025 dans la presse. Avec ses multiples hôpitaux universitaires, le Québec est un terreau propice pour les recherches en santé. Voici quelques-unes des découvertes marquantes de 2025 des chercheurs québécois. Rendre les césariennes plus sûres. Une technique permettant de gagner du temps à la fin d'une césarienne augmente beaucoup les complications pour les femmes. Des milliers d'Américaines et de Canadiennes ont donc des hystérectomies évitables. Un changement a été recommandé en novembre par un chercheur de l'Université Laval dans l'American Journal of Obstetrics and Gynecology. La méthode la plus courante de fermeture de l'utérus recoue ses trois couches en même temps. Le chercheur suggère plutôt de recourir à la méthode utilisée au Québec depuis 10 ans, qui consiste à recoudre l'utérus couche par couche. La procédure prend de 3 à 5 minutes de plus, mais évite des ruptures du placenta et des hystérectomies lors de grossesses subséquentes. Les dangers de l'hospitalisation. Les personnes âgées perdent souvent de la masse musculaire et de l'autonomie quand elles sont hospitalisées. Des chercheurs de l'UQAM ont mis au point un programme de physiothérapie simple sans supervision. L'hiver dernier, dans la revue Medicine and Science in Sports and Exercise, ils ont montré que le programme de maintien de l'autonomie par l'exercice à l'hôpital, MATCH, réduisait de 69 à 44% les besoins d'aide à domicile des personnes âgées après une hospitalisation, augmentait leur vitesse de marche de 30% et leur puissance de 15%. Il s'agit de 2 ou 3 exercices durant de 15 à 30 minutes au total. Les patients faisaient 2 séances de MATCH par jour. Le Botox contre les douleurs menstruelles. Une femme sur 30 souffre de dysménorrhée, des douleurs menstruelles sévères. Des chercheurs de l'Université Laval ont montré à l'hiver 2024 que l'injection de Botox fonctionne beaucoup mieux que les hormones et les analgésiques habituellement utilisés pour cette condition. Leurs résultats, publiés dans le Journal of Gynecology, Obstetrics and Human Reproduction, découlaient d'un essai sur 100 femmes répondant mal aux analgésiques et aux hormones. Un essai clinique sur 300 personnes est en cours et pourrait mener au remboursement de cette approche inventée en France.
moins de ponctions lombaires sur les bébés. Pour 2 à 4% des bébés qui ont des infections graves, une ponction lombaire est recommandée pour détecter une méningite. Ce prélèvement dans le bas du dos est délicat et génère beaucoup de stress pour les parents, en plus de mener à différentes complications. Des chercheurs du Centre universitaire de santé McGill, le COSUM, ont montré en décembre dans le journal de The American Medical Association, JAMA, que des analyses sanguines et d'urine peuvent identifier les bébés à très faible risque de méningite chez ceux qui ont des infections graves. Le nombre de ponctions lombaires a diminué de moitié. Chaque année, 250 bébés nés à l'hôpital de Montréal pour enfants ont une infection grave nécessitant jusqu'à maintenant une ponction lombaire. Débusquer le VIH. Des chercheurs de l'Université de Montréal ont identifié une molécule qui pourrait éradiquer le VIH. Cette possibilité permettrait de guérir les patients qui doivent actuellement prendre des médicaments pour contrôler le virus pour le reste de leur vie. Cette molécule, décrite en décembre dans Nature Communications, enlève le VIH, sa cape d'invisibilité, qui lui permet de se cacher dans les cellules humaines pendant que le patient est sous traitement, puis de ressortir à l'arrêt de la trithérapie. Débusqué, le VIH deviendrait vulnérable au système immunitaire humain ou à des médicaments antiviraux. Détecter l'infection avec sa montre. Des chercheurs de COSUM ont mis au point un algorithme permettant de détecter 90% des infections systémiques touchant le corps en entier à partir des données des bagues ou montres intelligentes. À l'été 2025, dans la revue Lancet Digital Health, ils ont décrit comment l'intelligence artificielle a permis de sonner l'alerte à partir de données cardiaques ou respiratoires enregistrées par ces appareils portables « wearables ». L'algorithme était testé chez 55 cobayes en bonne santé, à qui on avait donné un vaccin vivant atténué de la grippe. La détection précoce des infections est particulièrement importante chez les groupes à risque, par exemple les immunosupprimés. Cligner des yeux quand on est concentré. La fréquence du clignement des yeux indique le degré de concentration d'une personne, selon une étude publiée en décembre par des chercheurs de l'Université Concordia. Jusqu'à maintenant, la dilatation de la pupille était utilisée comme signe d'effort cognitif dans les recherches en psychologie. Mais dans la revue Trends in Hearing, les chercheurs montrent que le clignement des yeux est un signal encore plus fort. Les cobayes devaient écouter une phrase avec plus ou moins de bruit de fond. Ils clignaient beaucoup moins des yeux, jusqu'à 10 fois par minute par rapport à une normale de 70 fois par minute, en écoutant les phrases avec un fort bruit de fond. C'était Une année d'avancée québécoise en santé, un texte de Mathieu Perrault, paru le 29 décembre 2025 dans la presse.